La Maison Blanche, ce sera un démo de l'année 2016 avec la fin du mandat de Barack Obama et de nouvelles élections américaines. Ce sera en novembre prochain. Obama, c'est le premier président noir des États-Unis. Son accession au pouvoir, il y a un peu plus de 7 ans, avait suscité un immense espoir. Souvenez-vous du slogan de sa campagne, Yes We Can. Obama a-t-il réussi à changer le visage de l'Amérique? Quel bilan peut-on déjà tirer de son mandat? Et qui pour lui succéder? Eh bien, pour répondre à ces questions, Frédéric Carbone, correspondant de France Info à Washington, et Thomas Negaroff, historien des États-Unis pour notre chaîne France Info. Tout d'abord, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Frédéric, vous qui suivez attentivement la Maison Blanche, peut-on dire déjà qu'Obama aura été un grand président ?
Merci pour la question, c'est simple à répondre. Prenons ce qu'il dit lui-même déjà. Il a donné une très intéressante interview il y a un peu plus d'un an au journal New Yorker. Et justement, il parlait de cette notion de grand président américain. Et voilà ce qu'il disait. Même Lincoln, que je considère comme le plus grand des présidents américains, il a fallu 150 ans pour que l'on parvienne à un début d'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis après lui. Autrement dit, que ce qu'il a initié, Lincoln, soit mis en œuvre. Nous essayons simplement, dit Obama, d'écrire de façon juste notre paragraphe dans la grande histoire. Et il conclut, le président des États-Unis ne peut pas tout dans la société, tout changer, et c'est définitivement une bonne chose. Donc voilà un mélange de principes auxquels il faut être fidèle, de valeurs et de pragmatisme. À cette aune, on peut regarder par exemple ce qu'il avait dit avant d'arriver, qu'il fallait parler à tout le monde, on parle là de relations internationales, qu'il fallait parler à tout le monde, y compris aux adversaires les plus résolus de l'Amérique. D'où, ben voilà dans son bilan, Cuba, le rétablissement des relations diplomatiques, l'Iran, l'accord nucléaire, ça sera probablement une des choses qui resteront de Barack Obama. Après, à l'intérieur, l'économie, il arrive en 2008, économie totalement sinistrée, la crise bancaire. Aujourd'hui, moins de 5% de chômage, mais après, on en parlera sans doute. Gros souci en termes d'inégalité. Et puis, Barack Obama, il arrive sur la promesse de fin des guerres de l'Amérique. Certes, il y a eu un retrait d'Irak, mais c'est sur le chaos et le vide qui a suivi que Daesh a prospéré. Et en Afghanistan, il restera encore 5000 hommes au moins après son départ de la Maison Blanche. Et puis, la notion de grand président, peut-être qu'elle est très relative. Carter, à la fin de son mandat, personne n'aurait utilisé ce terme. Maintenant, on l'appelle le plus grand des ex-présidents des États-Unis. Obama sera jeune quand il partira de la Maison Blanche. Il aura du temps pour peaufiner encore sa stature.
Alors Thomas Snegaroff, qu'est-ce qui marquera son passage à la tête de l'État? Il faudra attendre qu'il soit mort pour dire que ça a été un grand président?
Non, pas forcément, mais c'est vrai, comme le disait Frédéric Carbone, il est encore très jeune, donc il aura une très longue vie après la présidence. Peut-être il sera un juge de la Cour suprême, on ne sait pas vraiment du tout ce qu'il deviendra. J'ajouterai à ce bilan très complet de Frédéric Carbone, Obamacare quand même, qui est une réforme de santé qui a bouleversé l'Amérique, qui l'a transformé. Je pense que...
Justement Thomas, cet Obamacare, c'est une réussite ou c'est un semi-échec, comme on semble le constater aujourd'hui?
C'est extrêmement compliqué à mettre en place, c'est très long, ça coûte très cher aujourd'hui encore. Les effets seront vus à long terme, hein, parce que il s'agit évidemment de la santé publique. Donc là, c'est souvent des choses qui se mettent en place très lentement. Il a dû faire face à quand même des républicains qui ont été extrêmement hostiles à la mise en place, qui ont tenté par tous les moyens de revenir dessus devant la Cour suprême à plusieurs reprises. Donc c'est quand même quelque chose qui marquera l'histoire de l'Amérique. Et puis vraiment, je pense que ça restera une présidence historique, d'abord par le fait même qu'il soit devenu président des États-Unis, étant lui-même métis mais se considérant comme noir. Et puis, bien sûr, le rapprochement historique avec Cuba et l'Iran. D'une certaine manière, je pense que Barack Obama, alors qu'il espérait être le président qui ouvre une nouvelle ère, je pense qu'il a plutôt clos une ère, à savoir une ère de relations internationales. C'est le président peut-être de la fin de la guerre froide, en fait. Même si elle a fini il y a 10 ans, la guerre froide, il y a même 20 ans, pardon, il a aussi achevé des choses, même s'il y reste beaucoup de choses, des chantiers. Il y a des tas d'éléments, c'est un peu ce que voulait dire aussi Frédéric Carbone, il y a des tas d'éléments qu'il a posés, mais qui seront ensuite, bien plus tard, mis au crédit de l'Amérique. Peut-être pas à son crédit à lui, mais il a semé des germes.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la présidence Obama, mais juste une question sur la crise. Face à la crise, c'est une réussite, c'est un échec. Comment faut-il interpréter le fait qu'effectivement, maintenant, le chômage aux États-Unis soit si bas, Frédéric ?
Objectivement, sur la crise, c'est un succès, personne ne peut le nier. L'état des banques à l'époque, la question économique gravissime, c'est là-dessus d'ailleurs qu'il est élu. Aujourd'hui, effectivement, 5% de chômage, mais j'en disais un mot tout à l'heure, et ça va être un des grands thèmes de la campagne électorale américaine. Tout le monde ne profite pas de la reprise, et loin de là. Il y a un immense problème de classe moyenne aux États-Unis aujourd'hui, de redistribution, de pauvreté. Obama en parle beaucoup, Obama n'a pas réussi à faire changer ces choses-là, et ça sera un des grands thèmes de la campagne à venir.
Thomas Negaroff.
Alors, Vous dites personne ne peut le nier, ben moi je le nie, hein, parce que 5% de chômage, d'accord, mais avec un taux d'emploi extrêmement faible. Historiquement aux États-Unis, on sait le taux d'emploi, hein, c'est la proportion d'une population en âge de travailler qui travaille effectivement. Et là on retrouve des taux d'emploi qu'on avait aux États-Unis au début des années 1980. Ce que ça veut dire, c'est que des gens ont quitté le marché du travail, ont décidé de ne plus même chercher d'emploi, donc ils sortent des chiffres du chômage, mais c'est des gens qui quand même sont expulsés de la vie économique et sociale, et les inégalités que vous évoquiez, elles sont aussi là. Et l'un des vrais enjeux, ça va être aussi de remettre les Américains, tous les Américains au travail, on en est encore très très loin. La crise, elle a été réglée en grande partie, mais il reste des enjeux, notamment l'endettement qui, alors là, n'a pas du tout été endigué. La dette ne cesse d'augmenter et de croître. C'est une bombe à retardement.
Alors, il y a différentes lois qu'il voulait initier, notamment la loi sur l'interdiction des armes à feu. Il y a aussi du racisme encore aux États-Unis. Et puis, il y a eu le Congrès qui lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, Frédéric.
Oui, le Congrès l'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur le racisme. Ça, c'est aussi une des questions qui restera après Barack Obama. Lui, sans doute, ne le pensait pas quand il a été élu, mais beaucoup d'Américains et dans le monde entier, on voulait penser que l'élection de Barack Obama signifiait qu'il n'y avait plus de questions raciales d'une certaine manière aux États-Unis. Ce qui se passe depuis des mois démontre que ça n'est absolument pas le cas. Et alors, je n'ai aucune information, évidemment. Je ne sais pas ce que fera Barack Obama une fois qu'il aura quitté la Maison Blanche. Mais j'imagine, vu les discours qu'il tient ces derniers temps, j'imagine que c'est une question sur laquelle il s'investira énormément après avoir quitté la Maison Blanche.
Alors, on a parlé aussi politique étrangère tout à l'heure. Politique étrangère plutôt frileuse, y compris sur la Syrie. Thomas?
Alors, c'est un peu alors je pense que c'est un des points noirs quand même. C'est-à-dire que nous, Européens, on trouve ça très bien, un président qui réfléchit, un président qui doute, un président qui prend le temps de la réflexion. Pour les Américains, c'est considéré quand même comme un signe de faiblesse. La fameuse doctrine Obama de politique étrangère, le lead from behind, à savoir de mener de l'arrière, de laisser des alliés, notamment la France au Mali par exemple, agir, ou en Libye, on l'a vu avec les Français et les Anglais, c'est aussi considéré comme un déclassement, comme un déclin. Pour beaucoup d'Américains, Barack Obama, qui n'est pas extrêmement populaire aux États-Unis, c'est le président du déclin, et c'est en partie parce qu'il a posé des lignes rouges qu'il n'a pas fait respecter ensuite, notamment sur l'usage des armes chimiques par la Syrie de Bachar al-Assad, ça n'a rien donné. Sur aujourd'hui contre Daesh, on considère qu'il a été très 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 lent à réagir, très lent à prendre la mesure de l'importance de Daesh pour la région et pour l'ensemble du monde. Et puis on avait longtemps dit aussi que Barack Obama, c'était le président qui avait mis à l'abri les États-Unis du terrorisme, sauf que c'est pas vrai, parce que récemment San Bernardino, et puis il y a pas si longtemps, il y avait une tuerie à Chattanooga. On vient d'apprendre que c'était aussi un acte terroriste. Donc, les États-Unis ne sont pas à l'abri. Barack Obama espérait être le président qui sorte l'Amérique de la guerre contre le terrorisme. Il l'a dit dans les mots, on n'est plus en guerre contre le terrorisme. Mais de fait, cette question se réinvite. Je crois que c'est un peu comme, vous savez, il avait voulu aussi sortir d'Europe pour aller vers le Pacifique. L'Europe s'est réinvitée avec la Russie de Poutine. Voilà, c'est pas facile d'inventer un monde nouveau dans le monde d'aujourd'hui.
Alors si on parlait un peu d'avenir, Frédéric, qui pour lui succéder, Hillary Clinton a-t-elle ses chances? Ou Donald Trump qui amuse beaucoup quand on le voit depuis l'Europe? Comment vous voyez les choses?
Je me garderai bien de tout pronostic. On est à près d'un an de l'élection. On pourra avoir une idée précise quand les Américains auront commencé à voter réellement, pas dans les sondages, mais dans les urnes, à partir des premières primaires au début février. Hillary Clinton, bien sûr qu'elle a ses chances, et bien sûr, là, sans faire de pronostic, qu'elle a toutes les chances d'être la candidate du Parti démocrate cette fois-ci, qu'il n'y aura pas un autre Barack Obama comme en 2008 pour venir créer la surprise. Côté républicain, bouteille à l'encre absolue. Ce que je peux vous dire, c'est que les républicains craignent énormément Donald Trump. Quand vous discutez aujourd'hui avec des républicains, on va dire de l'establishment, du parti, qui sont des cadres, des élus locaux, ils craignent énormément Donald Trump parce que il n'est pas des leurs et qu'ils sont persuadés que si c'est Donald Trump qui est candidat, là il y a un boulevard pour Hillary Clinton, et que les républicains non seulement ne reprendront pas la Maison Blanche, mais risquent de perdre aussi énormément de sièges au Congrès, voire leur majorité au Sénat. Donc c'est, pour le moment, Donald Trump, c'est presque plus un cauchemar pour les républicains qu'autre chose, là dans la période qui arrive.
Voilà, on se donne rendez-vous en novembre prochain. Donc Frédéric Carbone, Thomas Negaroff, merci à tous les deux. Les mots de l'info, c'est sur France Info, bien entendu, et puis à réécouter sur franceinfo.fr.